24. À très bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois encore, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission de l'Amérique et vous. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington aux États-Unis dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 17 juin 2022. Nous parlons des armes aux États-Unis. La nouvelle est tombée dimanche. 20 sénateurs républicains et démocrates ont annoncé un accord sur plusieurs dispositions afin de mieux encadrer l'utilisation des armes à feu dans le pays. L'accord met en avant le soutien par le gouvernement fédéral des lois qui permettraient de retirer des mains de personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent. Les sénateurs souhaitent aussi renforcer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgées de 18 à 21 ans, ainsi qu'un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes. L'accord prévoit le financement de programmes de soutien et d'aide psychologique et le renforcement de la sécurité dans les écoles. Ce compromis est bien loin de ce que réclamaient des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues samedi dans les rues pour demander des réformes fortes au Congrès. Ces manifestants exigent l'interdiction des fusils d'assaut, des chargeurs à grande capacité et la vérification des antécédents pour l'ensemble des acheteurs d'armes et pas seulement pour les moins de 21 ans. Et pour nous accompagner dans ce programme, nous avons comme invité ce soir Assali au Sénégal, René Lec, il est analyste politique. René Lec, bonsoir.
Bonsoir John.
Merci de nous renouveler votre fidélité à cette émission. À New York, nous avons Kadiatou Diallo, son fils Amadou Diallo, on s'en souvient, avait été tué par des policiers en 1999. Kadiatou Diallo, autant pour moi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Également avec nous, l'activiste Ruben Joannem depuis Minneapolis. Ruben Joannem, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir mon vieux, bonsoir à tout le monde et merci d'être, de vous retrouver ensemble aujourd'hui.
René Lec, est-ce que vous avez le sentiment que finalement le Congrès veut peut-être faire quelque chose dans le registre de la réforme sur l'utilisation d'armes ici aux États-Unis?
John, la pression populaire est tellement forte, tellement importante depuis de nombreuses années. Vous savez, 52% des Américains souhaitent que les lois, qu'il y ait des lois beaucoup plus strictes sur le contrôle des armes. Plus de 90% des Américains souhaitent que la recherche, les analyses et les enquêtes sur les antécédents des nouveaux acquéreurs d'armes soient approfondies et généralisées. Mais malgré tout cela, il est difficile d'avoir un consensus parce qu'au fond, les républicains ne sont pas partants. Et même chez les démocrates, il y en a quelques-uns qui sont très hésitants, pour ne pas dire tout simplement qu'ils ne sont pas partants. Donc sous cette pression-là de l'opinion, il semblerait que cette fois-ci, il y ait une petite avancée. Mais comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, John, les avancées sont vraiment minimes par rapport aux besoins.
Kadiatou Diallo, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces actions qu'on va qualifier d'actions de bonnes intentions qui se manifestent au niveau du Congrès? Est-ce qu'on peut parler de prise de conscience?
Oui, merci pour m'avoir invité dans ce forum. Vous savez, moi, je pense, dans la perspective de la maman qui a souffert ici aux États-Unis et qui est devenue militante, j'ai aussi des connaissances à moi au Texas, à New York, un peu partout, des mamans qui ont perdu leurs enfants par tragédie de gun violence. Donc, elles ne sont pas du tout d'accord avec ces mesures-là. Mais néanmoins, un pas franchi est mieux qu'un pas en arrière. Il faut absolument que l'on continue à manifester, à mettre des pressions, parce que là, cette communauté qui souffre, il y a des milliers de jeunes qui ont péri comme ça, et ça perdure. L'école, les enfants qui sont à l'école, les enfants qui sortent pour un temps, vraiment, ça va pas du tout, ça va mal.
Ruben Joannem, tout ce qu'on vient d'évoquer, ce ne sont jusqu'ici que des bonnes intentions du Congrès, mais sachant l'influence que certaines organisations comme la NRA ont sur les membres du Congrès, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout du processus et qu'on peut avoir une loi qui réforme vraiment l'achat et l'utilisation d'armes ici aux États-Unis?
Comme on vient de le faire remarquer, et le geste n'est pas à la hauteur des problèmes de fusillade de masse qu'on est en train de confronter au jour le jour aux États-Unis. Et il ne faut pas avoir aucune illusion. Le National Rifle Association est là, stand-by. Ils vont pas bouger. Donc, dans très peu de temps, la pression populaire va dissiper. Et puis, la prochaine fusillade aura lieu, je ne sais pas quand, mais certainement dans très peu de jours ou dans quelques semaines. Ce qui est garanti ici aux États-Unis, c'est le port des armes à feu d'après le second amendement. Et il y a des fanatiques qui sont tellement zélés pour maintenir le statu quo. Donc, les efforts n'iront pas suffisamment loin pour que ce soit un geste significatif.
René Lec, réagissant à ce qui se passe au Congrès, le président américain avait immédiatement salué des avancées insuffisantes, mais importantes, estimant dans un communiqué qu'il s'agirait du texte le plus significatif sur le rôle des armes à feu à être voté au Congrès depuis des décennies, si bien sûr ce processus va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui bloque vraiment dans cette réforme sur les armes aux États-Unis? Pourquoi la question de la revue, par exemple, des antécédents criminels des acheteurs a jusqu'ici fait problème?
Il y a un blocage systématique de la NRA, qui est l'organisation de lobby de détenteurs d'armes, qui a été jusque-là très, très puissante, qui avait énormément de moyens, qui finançait de nombreuses campagnes électorales de sénateurs et de congressmen. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il y a peut-être cette petite avancée, hein, elle est très petite, on l'a tous dit, c'est justement parce que peut-être la NRA est en très, très, très grande difficulté financière en ce moment. L'organisation est très affaiblie, elle est en difficulté, elle était à un moment au bord de la banqueroute, je ne sais plus trop où est-ce qu'ils en sont au moment où on se parle, mais elle est fortement affaiblie. Donc ça, c'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles il y a une petite avancée. La deuxième, bien entendu, c'est qu'on est à quelques mois des élections de mi-mandat, donc pour les républicains, considérant la mobilisation populaire, il y a intérêt à faire un petit geste, et le geste, encore une fois, il est minime. Et c'est vrai, John, depuis 1993, quand sous Clinton on a passé d'importantes lois sur le contrôle des armes, il n'y a pas eu de nouvelles lois. Et cette loi de 1993, elle avait une durée de validité de 10 ans seulement. Donc en 2003, elle devait être renouvelée et malheureusement, elle n'a pas été renouvelée. Donc la vente des armes, notamment semi-automatiques, a repris. Donc depuis 2003, donc ça fait pratiquement 20 ans, il n'y a eu aucune avancée sur ce terrain-là. Et là, il y a une toute petite lueur d'espoir. Là.
Ruben Joannem, ici aux États-Unis, si vous voulez passer un permis, acheter une voiture ou de l'alcool, louer une maison ou travailler pour le gouvernement, on va enquêter sur vous ou on va vous demander de présenter une pièce d'identité. On ne comprend pas pourquoi c'est si facile d'acheter une arme et compliqué d'acheter une bouteille d'alcool quand on a même 18 ans.
C'est exactement ça, l'ironie de la situation. N'importe qui peut devenir dealer d'armes, que ce soit des mitrailleuses, que ce soit de simples fusils de chasse, il n'y a presque aucune difficulté à à acheter ces gens de fusils. Mais maintenant, les gens se disent, ben, comment ça se fait? Même quand un membre du Sénat, Gabby Gifford, a été touchée, a été victime elle-même, on n'a pas pu prendre des mesures pour faire vaciller la base du lobby et de cette industrie. Ils sont très puissants. Donc, même les législateurs à Washington, ils savent bien qu'ils doivent respecter quelques consignes. Il y a des limites à ne pas franchir ici aux États-Unis. Même si on est sénateur ou même si on fait partie des chambres des représentants. Parce que le lobby, le NRA sont des institutions aux États-Unis qui font et qui nomment pratiquement et révoquent ceux-là qui font les lois. Donc c'est ça le problème.
Madame Diallo, quand on parle de la possession ou de l'utilisation des armes aux États-Unis, il y a un groupe ou certains groupes qui possèdent et utilisent légalement les armes. L'un de ces groupes professionnels, c'est la police, c'est les agents de sécurité. C'est toujours triste de le rappeler, mais votre fils a été tué par la police. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il n'y a pas lieu de réformer? Est-ce que les policiers doivent continuer de tirer comme ils veulent, quand ils veulent et sur qui ils veulent?
Et je voulais tout juste parler de mettre l'accent sur le lobby que le NRA a. Nous savons tous que les politiciens sont dans leur poche. Ça, nous le savons. Et en plus, avant de répondre à votre question, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur l'incident qui s'est passé le 4 février 1999. Mon fils, qui était dans le vestibule, qui n'a pas eu le temps, les policiers n'ont pas observé la situation, prendre de recul et voir qui il était. C'était dans là où il habitait, dans son vestibule. On l'a abattu dans quelques secondes. Et l'incident qui s'est passé tout récemment au Texas, à Uvalde, à l'école là-bas, là où il y a des élèves, 19 qu'on a abattus, les policiers qui sont venus, qui ont attendu 78 minutes avant d'agir. Vous voyez, l'équipe, c'est pas équilibré du tout. Donc quand il s'agit des communautés noires, des communautés hispaniques, nous savons très bien ce qui se passe. Et en plus, les armes qu'on laisse les communautés, là, les enfants, avoir accès à des armes de puissance vraiment très forte et qui viennent causer des dégâts. Parfois, c'est des enfants qui ont besoin d'aide, qui ont des problèmes, qui doivent avoir leur mental health check et qui sont là. Tantôt, une autre... collègue vient de mentionner que c'est très facile d'avoir une arme. Et quand l'enfant vient pour acheter de l'alcool, c'est pas permis. Mais pour acquérir l'arme, c'est facile. Donc, c'est un système qui est là, qui continue à victimiser nos communautés. Les enfants, on leur donne accès à des armes, la drogue, un peu partout, et les policiers viennent oppresser, soi-disant dire qu'on pensait que la victime était armée. Donc, de toute façon, c'est les mêmes communautés qui sont exposées à cette brutalité doublement. Quand il s'agit de gang violence, c'est les mêmes communautés qui payent un prix cher, et la police brutalité aussi, c'est la même chose. Donc, vraiment, il faut que les gens puissent analyser cette situation et voir ce qu'il faut faire. Cette puissance des lobbyistes, ça a causé tellement de dégâts. Dans le monde entier, c'est les États-Unis qui ont un taux plus fort que partout dans le monde, là où il y a des communautés, les jeunes qui ont accès à certaines armes. Et ça cause des dégâts. Ça continue à c'est une machine tournante, quoi, je veux dire.
Vous êtes bien sûr sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington aux États-Unis. Nous parlons des armes aux États-Unis. René Lec, on est à quelques mois des élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Selon le Washington Post, les fusillades de masse sont en hausse ces dernières années. En 2021, près de 700 incidents de ce type se sont produits, un bond par rapport aux 611 de 2020 et aux 417 de 2019. Cette année, nous sommes déjà à plus de 250 fusillades. Est-ce que vous pensez que ce thème, celui des armes, celui de la réforme des armes, peut influencer ces élections?
Oui, je crois, oui, certainement. Selon, j'ai vu juste hier un sondage de CNN et il disait que je crois que la question des armes à feu arrivait en deuxième position. D'accord, 48% disent que c'est l'économie, notamment le prix de l'essence et l'inflation qui est le plus important, à 48% donc. Et tout de suite après, 17% gun violence, donc la question de la violence avec des armes à feu. Et ensuite, l'avortement en troisième position, 12%, l'immigration en quatrième position avec 6%. Donc effectivement, la question de la violence par les armes est une question centrale. Et je rappelle, John, à vos auditeurs, qu'on a jusqu'à 45 000 morts par an, morts liés à des armes à feu aux États-Unis. Le chiffre est énorme. Et je crois que vous l'avez indiqué, ou en tout cas insinué, il y a plus d'armes aux États-Unis qu'il n'y a d'habitants. Il y a 120 armes à feu aux États-Unis pour 100 habitants. Donc c'est vraiment une tragédie, je pourrais dire.
Madame Diallo, vous œuvrez aussi dans le domaine associatif. Vous avez une organisation. Qu'est-ce qu'elle fait et quelle est votre position sur la réforme des armes et qu'est-ce que vous attendez en gros?
Merci. Je suis la fondatrice de la Fondation Amadou Diallo et j'ai créé cette fondation pour honorer la mémoire de mon fils qui était venu aux États-Unis, qui voulait étudier, décrocher un diplôme sur le computer science et n'a pas eu la chance d'achever son rêve avant d'être abattu par la police. Et trois jours avant ce rendez-vous, le destin a frappé. Il m'avait parlé au téléphone pour me dire, « Maman, je suis très fière, j'ai économisé assez d'argent et je suis prêt. Je me suis inscrit à l'université. » Donc, on donne des bourses aux jeunes qui aspirent d'aller à l'école, de faire des études supérieures à New York. Et ensuite, on éduque, on sensibilise la population en organisant des forums sur la brutalité policière et sur le racisme. J'ai même un ex-policier noir qui est dans le board et des avocats. On organise des forums régulièrement. Moi, je pense, la dernière question que vous m'avez posée là, l'espoir doit venir des jeunes. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont impactés. Quand je vois les jeunes s'impliquer, j'ai de l'espoir. Ça doit venir des jeunes, c'est eux qui doivent encourager leurs parents, qui doivent vraiment s'impliquer davantage. C'est pour cela que moi, notre focus est sur la jeunesse. Avec la jeunesse, nous aurons un changement que nous attendions. Parce qu'avec les politiciens, on attendra toujours avoir une autre tragédie que tout le monde va revenir encore sur la table et négocier, dire que cette fois-ci, ça va changer. Je prends ça avec une pincée de grain de sel, ce changement dont on est en train de parler là. Parce qu'il y a eu cette tragédie et à Buffalo et au Texas. C'est pour cela qu'on dit maintenant qu'on est en train de négocier, de voir comment on va trouver un consensus sur la loi contre le gun violence.
René Lec, la tragédie ou ce qui est arrivé à Madame Diallo peut arriver à toutes les familles d'origine africaine vivant aux États-Unis. Je ne veux même pas élargir le champ pour parler des familles noires. Quel est le conseil que vous pouvez vous donner aux familles, à ces familles qui ont des enfants?
Oui, écoutez, moi je pense que le premier conseil commence par les enfants tout jeunes, éviter de donner des jouets qui soient des armes. Je me souviens déjà, il y a déjà plus de 60 ans, quand moi-même j'étais tout jeune, c'était encore une époque où on donnait des pistolets, des petits jouets comme ça. Mais déjà, le débat avait déjà commencé. Je sais qu'au niveau de ma propre famille, mes parents ont arrêté assez rapidement ce type de cadeau. Et je pense que, bon, moi, bien entendu, ma génération, pour mes propres enfants, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que ça commence là. Donc, éviter déjà tous ces jouets avec des armes bien sûr d'amusement. Ensuite, maintenant, bon, il y a la question des jeux vidéo. Bon, le lien n'est pas encore scientifiquement établi. L'autre conseil, c'est bien entendu d'en discuter constamment avec les enfants, éviter d'être dans des dynamiques de groupe, tout ce qui est gang, organisé ou non organisé. Parce qu'au fond, on ne faut pas oublier aussi, souvent, la violence aussi, elle est entretenue par un système social de groupes de jeunes qu'on appelle souvent les gangs. Donc, éviter ça. Donc je pense qu'il y a un travail qui relève principalement de la responsabilité des parents. Ensuite, bien entendu, il y a l'école qui est le grand éducateur républicain qui a aussi un rôle important à jouer. Donc je pense que tout ce qui est formation, tout ce qui est prise de conscience est un travail essentiel. Et maintenant, bien entendu, il y a l'État de jouer son rôle en tant que régulateur social, par le système législatif, mais également dans la gestion administrative de toutes ces questions.
Voilà, je voudrais ajouter aussi sur les conseils, c'est qu'il faut que les gens puissent avoir leur éducation civique, comprendre dans quel état vous êtes et comment on utilise le budget. Combien on investit sur l'éducation des enfants, sur le mental health, combien on investit pour voir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les besoins des communautés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qu'on est en train de fournir pour demander à ce qu'on équilibre le budget. Il ne faut pas donner trop de moins à ceux qui oppressent et donner plus. Ceux qui sont oppressés, donner plus à ceux qui oppressent. C'est ça le problème, en fait. Au lieu d'investir sur la police, par exemple, pour donner plus de policiers, il faut investir sur l'éducation des enfants, sur le mental health, sur les occupations, quoi, les jobs. C'est-à-dire la main-d'œuvre des jeunes, ça compte beaucoup. Parce qu'un jeune, si tu lui donnes l'opportunité d'être occupé, il n'aura pas le temps d'aller faire autre chose.
Voilà. On va terminer cette émission avec un mot de fin pour chacun de vous, juste en quelques secondes. René Lec.
J'espère que cette loi présentée comme une loi du bon sens va aboutir d'abord, mais ça je pense que ça va être le cas, mais qu'elle sera juste une première étape et qu'on passera à un niveau beaucoup plus sérieux où les lois seront beaucoup plus strictes, beaucoup plus restrictives.
Madame Diallo, le mot de la fin.
Bon, le mot de la fin pour moi, c'est que avant d'être politicien, on est parent, donc ça touche à tout le monde quand tu vois une personne innocente abattue, quel que soit l'âge de ton fils et de ta fille. Donc j'aimerais que tout le monde soit conscient de cela.
Et c'est avec cet espoir qu'on va mettre un terme à cette édition de l'Amérique et vous. Production Joselle Morissin, présentation John Linden. Merci à nos invités et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.